OK, on va commencer aujourd'hui une nouvelle série sur le péché, les 10 commandements de Dieu et la grâce. Alors, il y a une chose que je rencontre souvent dans les lectures concernant le péché et les 10 commandements, c'est qu'il y a un grand nombre de grands défenseurs contemporains de la foi chrétienne, orthodoxe, bien entendu. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Ernest Risinger. Ernest Risinger, c'est un théologien, un pasteur américain, très connu aux États-Unis, je pense qu'il est décédé actuellement. Gresham Machen, c'est un presbytérien aussi, un pasteur, et une personne qui a beaucoup défendu la foi chrétienne dans les années 30-40, où il y avait aux États-Unis beaucoup d'opposition à la Bible, à l'inspiration. Il y avait beaucoup de problèmes dans les écoles bibliques. Et Gresham Machen, c'était quelqu'un qui a pris position fermement. Donc, c'est un grand défenseur de la foi. Charles Bridges, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, c'est celui qui écrit les commentaires sur le livre des Proverbes. Il en a écrit aussi sur beaucoup d'autres choses. Donc, c'est plus du 19e siècle. Mais c'est des choses qui reviennent continuellement quand vous lisez des livres de théologie. Il y a des personnes qui disent des phrases, alors quelque part, il faut les retenir parce qu'ils sont importants. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Et il y en a beaucoup d'autres. Là. J'ai nommé trois, là, mais il y en a beaucoup d'autres. Ils affirment que le sujet du péché, de la loi morale, donc le décalogue ou les 10 commandements, et les relations qu'ont le péché avec la grâce, c'est un sujet qui, de nos jours, avec la grâce souveraine de Dieu, qui est négligé et très mal connu. Alors, quelque part, dans le but qu'on se rafraîchisse tous la mémoire sur le péché, on ramène cette série-là. Alors, on va remédier à cette situation-là en examinant le sujet de la relation du péché, des 10 commandements et de la grâce avec les 4 divisions suivantes. J'ai pensé de diviser ça en 4 parties. Et là, je ne sais pas combien de leçons il va y avoir encore dans chacune des parties parce que je prends ça dans plusieurs livres, alors on ne sait pas comment ça va donner. Je m'organise toujours pour que ça soit à peu près 35, 40, 45 minutes maximum. Alors, c'est difficile de prévoir d'avance combien de leçons ça va prendre, mais ça devrait être entre 50 et 75, quelque part là, dans cet ordre-là. La première partie, on va d'abord regarder la théologie du péché. Autrement dit, si je m'en vais dans des livres de théologie systématique, il y a toujours une section dans les livres de théologie systématique qui s'appelle l'amartiologie ou la théologie du péché. Alors, on va aller chercher dans les différents volumes qu'est-ce que les théologiens ont, comment ils ont compris le péché, comment ils ont interprété toutes les données bibliques sur le péché. On va regarder ça sur plusieurs leçons, je ne sais pas combien. Et ensuite, on va regarder comment les Écritures nous disent que le péché nous est révélé. Comment on sait que quelque chose est péché? Les Écritures dans Romains nous disent que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, la loi, dans le contexte de Romains, c'est le décalogue, le 10 commandements, la loi morale. Ça, c'est tous des noms qui sont interchangeables. Loi morale, décalogue, 10 commandements, ça veut dire exactement la même chose. Donc, on va regarder la révélation du péché, le décalogue, mais on va regarder ça sous deux angles différents. Il y a beaucoup de livres qui parlent de la loi en général. Alors, toutes sortes de caractéristiques de la loi. J'ai un excellent livre sur la maison sur ce sujet-là. Donc, on va commencer par les aspects généraux de la loi morale. Et ensuite, on va prendre les commandements un par un. Les 10 commandements un par un. On va regarder qu'est-ce que Dieu nous commande et qu'est-ce que Dieu nous défend. Alors, il y a toujours deux aspects dans la loi morale. Qu'est-ce que Dieu commande, qu'est-ce que Dieu requiert de chacun d'entre nous. Ensuite, on va avoir la troisième partie, ça va être la gravité du péché et le combat du péché. Pourquoi j'ai ajouté cette section-là? Parce que, en anglais, ils appellent ça « the exceeding sinfulness of sin ». Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, c'est difficile à traduire. Autrement dit, c'est le côté très grave du péché. C'est que pour nous, on peut très facilement pécher, puis on n'a pas... Souvent, ça nous dérange pas plus qu'il faut. Mais il faut regarder ça dans une autre perspective, pas la perspective du pécheur, la perspective divine. Comment Dieu voit le péché? et comment lui, il le hait, mais il le hait de pas de la même façon que nous. Là. Nous, on dit qu'on le hait, mais on flirte souvent avec, comme on dit. Alors, on va regarder cet aspect-là. Alors, comment c'est grave le péché aux yeux de Dieu et comment aussi on se doit de le combattre. Alors, ça va être réparti aussi sur différentes leçons. Et on va terminer par une révision de la grâce souveraine de Dieu. On rentre pas dans les détails, mais tous les auteurs, quand ils parlent de la loi et de la grâce, la relation de la loi et de la grâce, ils disent « C'est impossible pour une personne de vraiment apprécier la grâce s'il n'a pas d'abord été convaincu de péché par la loi. » Alors, la loi, il faut d'abord parler de la loi avant de parler de la grâce. Parce que si tu ne parles pas de la loi, quelque part, tu ne vois pas jusqu'à quel point tu es condamné, jusqu'à quel point tu es coupable. Alors, il faut que tu la présentes avant. C'est pour ça qu'on suit cet ordre-là. On va terminer par la grâce. Donc, on va commencer un petit peu à regarder qu'est-ce que les théologiens disent sur la martyrologie, ou, en passant, amartyrologie, c'est tout simplement un mot grec, amartios, qui veut dire péché. Alors, on appelle ça l'amartyrologie, H-A-M-A-R, théologie, pour parler, alors, la doctrine pour qualifier le péché, dans la plupart des livres de théologie, on appelle ça l'amartyrologie. Alors, notre étude va débuter par une brève considération. Bien sûr, on n'ira pas dans les détails de tout ça, là, parce que si on va dans les détails de tout ça, ça prendrait... parce qu'il y a des livres et des livres et des livres qui ont été écrits sur le sujet, mais on va faire un peu comme on a fait avec l'introduction aux différents livres de la Bible. On va faire un survol. Les différents aspects dans les lignes les plus importantes. On va commencer par son origine, qui va être la leçon d'aujourd'hui. Ensuite, on va regarder la nature du péché, qu'est-ce que c'est. Ensuite, on va regarder ses conséquences. Quelles sont les innombrables et graves conséquences du péché? Ensuite, on va regarder l'ampleur. Ça va jusqu'où le péché? Donc, l'ampleur, ça parle de... Et ensuite, on va regarder les dimensions sociales du péché. Donc, aujourd'hui, on va commencer la première leçon par l'origine du péché. Si on se demande, on est sur la terre, on se dit, d'où ça vient, ça, le péché? Comment ça se fait que c'est rentré dans le monde? Alors, il y aurait différentes façons de regarder ça, mais on va regarder ce que la plupart des théologiens disent sur l'origine du péché. Donc, est-ce que le péché a commencé dans le monde humain? Première question qu'on se pose. Ou si le péché est entré par le monde angélique? Alors, les Écritures nous disent que le péché est d'abord entré dans le monde angélique. Il y a deux passages qui sont continuellement utilisés dans les livres de théologie pour nous expliquer d'où vient le péché. C'est Ésaïe 14 puis Ézéchiel 28. Retenez ces passages-là, parce que quand on les sait par cœur, qu'on veut expliquer comment le péché est entré dans le monde, et il y a d'autres passages, mais ça, c'est les deux principaux dans l'Ancien Testament. Donc, Ésaïe 14... versets 12 à 17 nous explique comment le péché est entré dans le monde, par le monde angélique, et dans le monde angélique avant d'entrer dans le monde humain. Dans Ésaïe 14, versets 12 à 17, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, « Je monterai au ciel, » J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne l'arrachait point ses prisonniers. Alors, comme astre brillant, ça peut être Lucifer, le mot Lucifer. Et ça parle aussi, je serai semblable au Très-Haut. Alors, plusieurs théologiens croient que le passage est une image de la chute de Lucifer, qu'on appelle le fils de l'aurore, donc de Satan, qui s'est révolté m'en donner contre Dieu. Alors, quelle est la nature du premier péché? L'orgueil. l'orgueil et la nature du premier péché. Puis on va voir que c'était le premier péché des anges, mais c'est également le premier péché des hommes. Alors, il faut se rappeler que nous sommes tous orgueilleux. L'autre passage qui décrit la chute de Satan, c'est Ézéchiel 28, versets 12 à 17. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Qu'est-ce qu'on apprend sur Satan? La plupart des images l'Église catholique a traînées au cours de l'histoire, c'est que Satan il est laid, il est fourchu, il est affreux. C'est pas ça que les Écritures disent sur Lucifer. Il était quoi? Tu mettais un sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc, il était beau. Tu étais en Éden. Donc, l'Éden, c'est là où s'est passé la... Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Voyez-vous, on apprend une chose dans le texte. Il était donc Satan, c'est une créature, pour le jour où tu fus créé. Et une autre chose qu'on apprend de lui, ça dit, tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service. Donc, c'était une personne qui savait manier la musique. Et encore aujourd'hui, ça sert beaucoup de la musique contemporaine pour garder ses enfants sous son... Alors, si on regarderait les caractéristiques de la musique moderne, bien souvent, on apprendrait beaucoup de choses. Et verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Donc, qu'est-ce qu'on apprend de lui? Un chérubin protecteur, c'était celui qui marchait devant Dieu lui-même. Alors, il était très proche de Dieu, très proche de Dieu. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Alors, on parle souvent de l'endroit où Dieu est, comme des pierres étincelantes devant lui, et il avait accès à la proximité de Dieu. Donc, il était très proche de Dieu. Et dans le verset 15, ça dit, « Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, voyez-vous, à l'intérieur du passage, deux fois une mention que ce n'est pas Dieu, c'est une créature. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite dans la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Alors on voit, bien sûr, on pourrait dire beaucoup de choses là, sur l'entrée du péché dans le monde angélique, mais en gros, c'est les deux principaux passages qui sont utilisés. La question que les théologiens se posent quand tu lis sur le sujet, dans les livres de théologie sur le péché, on se dit toujours, comment un être aussi béni, aussi choyé, et qui possédait de telles capacités intellectuelles, des grands talents, des richesses, on dit qu'il était couvert de tout à l'heure les pierres précieuses qu'on a nommées, et d'intuition morale, alors il était vraiment privilégié dans sa proximité avec Dieu. Comment une personne sainte comme ça peut, à quelque part, avoir basculé dans le péché? Alors, il a perdu son innocence primitive, il est tombé dans le péché, et d'après l'Apocalypse, il aurait entraîné le tiers des anges à sa suite par sa chute. Alors, quelque part, c'était une personne très intelligente qui n'a fait donc il a tombé lui-même, il n'a fait tomber une multitude d'autres anges avec lui, les anges déchus. Alors, quand vous lisez sur le sujet, la plupart disent que c'est vraiment difficile à expliquer. Il y a plusieurs théologiens qui ont tenté d'expliquer pourquoi. Alors, on explique la plupart du temps, tout le temps, parce que nous sommes muables. Tu sais, on parle de Dieu, il est immuable, il ne peut pas changer, il est immuable. Tandis que toutes les créatures, y compris Satan, nous, on est muables, donc avec une possibilité de changement. Mais c'est, la plupart des théologiens trouvent que c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer, que quelqu'un qui était parfait, riche, intelligent, proche de Dieu, pourquoi un jour il a décidé qu'il voulait être semblable à Dieu, puis que ça a été sa déchéance, et non seulement sa déchéance, mais celle d'un tiers des anges avec lui, mais qui a emmené toute l'humanité par Adam et Ève à sa suite dans le péché. Alors, c'est la question, quand je vous dis dans le texte, cette question pose un problème que bien des philosophes et des théologiens ont tenté de résoudre avec plus ou moins d'intelligence. En tout temps, sous tous les cieux, les esprits méditatifs ont sondé le problème de l'origine du mal. La cause du péché, une des choses qu'il faut établir dès le départ, sans aucun doute, c'est que Dieu n'est pas l'auteur du péché. Donc, s'il n'en est pas l'auteur, quelque part, il faut que ça soit à l'extérieur de lui-même. Alors, l'auteur du mal est une personne. La tentation de Jésus en est une preuve. Dans Matthieu 4, par exemple, quand Jésus est venu sur la terre, Satan s'est approché de lui pour le tenter. Donc, c'était une personne. C'est pas, parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui disent « Ah, Satan, c'est pas une personne, c'est un principe, c'est à l'intérieur de l'être humain. » Il y a toutes sortes d'autres explications, mais c'est pas ce que la Bible enseigne. Alors, la tentation de Jésus est une preuve que Satan est une personne. La Bible présente Satan comme une personnalité réelle. Là, on pourrait aller voir beaucoup de passages. Donc, Job 1, on est en train d'étudier Job 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit que Satan a fait? Il s'est présenté devant Dieu pour demander des choses. Alors, il y a Zacharie 3, 1, Luc 10, 18, et il y a une multitude d'autres passages. Dans les Écritures, Satan est aussi appelé le diable. Alors, je vous mets des références, je ne les nommerai pas toutes les fois, là. Les références, je vous les mets dans le texte. On l'a appelé le diable, on l'a appelé le serpent, on l'a appelé le dragon, et d'autres noms aussi. Comment est-il devenu l'auteur et l'instigateur du mal? Dans la clé de l'énigme nous est donnée par Ésaïe et Ézéchiel, qu'on vient de lire. Donc, à l'origine du monde, en créant les cieux et la terre, donc le cosmos, qu'on peut lire dans Genèse 1:1, Dieu avait créé des anges, et parmi eux, un ange supérieur, un chérubin, qui dominait sur toute une légion d'anges, mais bientôt qui ont été déchus avec lui, que les Écritures appellent les démons. Donc, tous les anges qui ont chuté en même temps que Satan sont les démons. Et on l'appelle aussi le prince de la puissance de l'air, dans Éphésiens 2, et on l'appelle aussi le prince du monde terrestre, dans Jean 12 et dans Jean 14. Donc, la responsabilité du désordre appartient à Lucifer, le chérubin dont parle Ésaïe et Ézéchiel, sous les images des rois de Babylone ou de Tyr, parce que quand on lit le texte, on voit que ça parle du roi de Babylone et du roi de Tyr, mais ça dit aussi d'autres choses qui ne peuvent pas être attribuées à un roi humain. Alors, c'est là qu'on pense que c'est... Alors, c'est Lucifer qui fait l'objet de ces passages-là dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Qu'est-ce que ces passages-là nous apprennent? Premièrement, que Lucifer avait le gouvernement de la terre, Ésaïe 14, verset 12, et de l'espace qui l'environne. Deuxièmement, qu'il avait été créé pour célébrer la gloire de Dieu dans tout l'univers. Troisièmement, qu'il avait accès au trône même de Dieu, dans Ézéchiel 28. Quatrièmement, qu'il était parfait, plein de sagesse, de richesse et de beauté. Cinquièmement, qu'il conçut le plan insensé de devenir l'égal de Dieu, de détrôner Dieu. Alors, sa beauté, son éclat, ses richesses l'ont perdu et l'ont conduit au péché. Le jugement de Lucifer, donc, ça a été de perdre sa position élevée, être aussi destiné au séjour des morts et au tourment éternel. Alors, j'ai mis les passages, si vous voulez aller regarder ça. Aussi, ainsi, Lucifer est devenu, par sa chute, le Satan, l'adversaire de Dieu et le tentateur des hommes. Il est descendu en Éden, parce que quand vous regarderez Ézéchiel 28, vous allez voir, tu étais en Éden. Mm. Qui était en Éden à part d'Adam et Ève? Le serpent. Alors, le serpent, c'est un autre nom donné pour représenter Satan. Alors, voici que Lucifer plonge cette création divine dans le chaos et les ténèbres. Donc, quand on regarde le mal qui a été produit par Satan, premièrement, ça a été la ruine sur la terre de l'ouvrage magnifique de Dieu. À l'origine des mondes, comme tout le cosmos, était pleine de beauté et de lumière. Elle sortait des mains du Créateur que les anges acclamaient avec des chants de louange. Quand vous allez dans le psaume 89 ou dans le psaume 19, on dit que les anges, lors de la création, étaient émerveillés de la création de Dieu parce que Dieu lui-même dit au début dans Genèse que tout était bon. Alors voici que Lucifer plonge cette création divine dans le chaos et les ténèbres. Donc la ruine sur la terre de l'ouvrage magnifique de Dieu. Autre chose qui l'a produit, le mal, l'introduction du mal en Éden. Satan déchu se manifeste en Éden sous la forme du serpent. Il craint que l'homme, appelé à dominer la terre, ne devienne toujours plus semblable à Dieu. Il a peur d'être chassé de son empire terrestre et des régions qui l'enveloppent la terre. Il faut qu'il arrache l'homme à la dépendance divine. C'est ainsi qu'il séduit Adam, en jetant le doute dans son cœur sur la parole et la volonté de Dieu. Alors, on a vraiment l'histoire de la chute dans Genèse 3. Et troisième chose, mal qui est produit par Satan, il devient l'accusateur des hommes. Avant la résurrection de Christ, Satan continue à entrer dans les conseils de Dieu pour accuser les hommes, comme on le voit dans Job 1. Dans Job 1, on voit que Satan a encore accès à Dieu lui-même. Alors, lui, l'auteur que j'utilise, il dit que c'est avant la résurrection de Christ. C'est juste que dans les lieux célestes que nous avons à lutter contre lui, quand dans Éphésiens 6, ça dit qu'on a à lutter contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Et quatrième mal qu'il introduit, Satan tente de faire tomber le Fils de Dieu. Parce que quand Jésus est venu, il a voulu le tenter, mais comme on sait, ça n'a pas fonctionné. Alors, on a le récit de ça dans Matthieu 4, verset 1 à 11. Maintenant qu'on a vu de quelle façon il est entré dans le monde angélique, on regarde maintenant son entrée dans le monde des hommes. Donc, la chute de l'homme. Bien entendu, Genèse 3 est l'endroit où on parle de la chute de l'homme. Donc, ça ne décrit pas dans Genèse 3 l'origine du péché, mais ça décrit l'entrée du péché dans le royaume de l'humanité. Alors, Genèse 3 décrit un événement historique. Adam et Ève étaient des personnages historiques qui ont péché contre Dieu dans le temps et l'espace. L'historicité de cet événement est essentielle pour comprendre l'analogie entre Romains 5, 12 à 21. L'importance de la création, l'importance du personnage d'Adam. Alors, quand on croit à l'évolution, on peut difficilement croire à l'existence du premier homme et de la première femme créée par Dieu lui-même. Parce que l'évolution, ça ne fonctionne pas. Là. Parce que la mort serait rentrée avant la chute. Il y a beaucoup d'implications théologiques de tout cela. Mais aussi, si on ne tient pas compte de la création de Dieu, d'Adam et de Ève, on peut très mal comprendre comment les Écritures, dans Romains 5, verset 12 à 21, quand ça nous dit « le premier Adam » et Christ est le second Adam, on peut vraiment pas... Autrement dit, le premier Adam a fait que toute l'humanité a chuté avec lui, et ceux qui sont élus, ben, à cause qu'on est en Christ, on est dans le second Adam, et c'est lui qui a rempli les conditions que Dieu voulait. Alors, si Adam n'était pas une créature réelle, qui a fait entrer le péché dans la race humaine à un moment précis de l'histoire, alors Jésus ne serait pas venu racheter l'humanité à un autre moment de l'histoire. Cependant, le témoignage de Christ lui-même confirme que Genèse 3 est un événement historique. On va aller lire ce passage. C'est un passage clé, Romains 5, versets 12 à 21. C'est vraiment extrêmement important. Regardez bien ce que ça dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, un seul homme, c'est Adam. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et non le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Voyez-vous, on parle de Paul ici, qui connaissait, qui avait peut-être, je ne sais pas s'il l'avait vu, Jésus-Christ, à lui, à son époque. mais sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais verset 15, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, autrement dit, l'offense d'Adam a fait en sorte que l'humanité est tombée avec lui, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, voyez-vous, on a le premier Adam, on a le second Adam qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Donc si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Voyez-vous, il nous montre qu'une seule offense a amené la condamnation de tous. Et regardez bien le verset 18. « De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, de qui? De Christ, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce sera un passage qu'on pourrait passer plusieurs semaines à étudier. Il y a beaucoup de choses dans ce passage-là qui est très important. Alors, on a vraiment l'idée, la mise à l'épreuve. Alors, pendant leur vie dans le jardin d'Éden, Dieu a mis Adam et Ève à l'épreuve au sujet de leur obéissance. Ils étaient libres de manger les fruits de tous les arbres du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on peut voir dans Genèse 2, versets 16 et 17. L'épreuve, dans le fond, était simple. Elle devait servir à déterminer si, oui ou non, ils croiraient Dieu et lui obéiraient. Or, la désobéissance entraînerait de graves conséquences. Elle signifiait la mort, autant physique que spirituelle. Le but de Dieu, par cette mise à l'épreuve, était de donner à Adam et Ève la connaissance du péché à travers l'obéissance, en ne mangeant pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève ont obtenu la connaissance du bien et du mal, mais ils ont atteint cette connaissance de la mauvaise façon. Maintenant, la tentation. L'avenue par laquelle la tentation s'est présentée à l'homme et à la femme a été le serpent. Cependant, la tentation doit être considérée comme venant de Satan. Le diable a inspiré Caïn à tuer son frère. Le diable s'appelle le serpent ancien. Et l'allusion, dans Romains 16, verset 20, indique que le jugement de Genèse 3, 15 fait référence à Satan et non simplement au serpent. Le serpent était rusé et par conséquent, Satan a usé de ruse dans la tentation en Éden. Sa stratégie peut se résumer en trois phases. Première phase, Satan a soulevé le doute quant à la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Alors, la tentation a créé de la suspicion au sujet de la bonté de Dieu. Elle a soulevé la question à savoir si Dieu traitait Adam et Ève de façon sage et équitable. Ève a succombé à la tentation en ce qu'elle a exagéré l'interdiction posée par Dieu dans sa réponse à Satan. Dieu n'avait rien dit à propos de toucher le fruit. Alors, quand vous étudiez le passage d'aplomb, vous voyez que Satan, il y a toujours, soit on ajoute ou soit on enlève. C'est les deux principales caractéristiques de ce passage-là. On enlève de ce que Dieu a dit ou on ajoute à ce que Dieu a dit. Deuxième chose, Satan a menti en disant qu'il ne mourrait pas, en Genèse 3, 4. Satan a nié catégoriquement la déclaration faite précédemment par Dieu. Satan a dit, « Vous ne mourrez point. » Qu'est-ce que Dieu avait dit? « Vous mourrez certainement. » Alors, on voit qu'il y a une contradiction, un mensonge. Troisièmement, Satan a dit la vérité en partie seulement, dans Genèse 3, 5. Satan leur a dit qu'il serait comme Dieu, connaissant la différence entre le bien et le mal, s'il mangeait le fruit. Il était vrai qu'ils connaîtraient le bien et le mal, mais Satan ne leur a pas dit le reste de la vérité, ne leur a pas parlé des douleurs, des souffrances et de la mort qui suivraient leur péché. La mise à l'épreuve portait sur trois points dont on parle partout dans les Écritures: la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Maintenant, les conséquences. Tout ça a eu des conséquences que les Écritures nous apprennent. Donc, le premier, ça a été le jugement contre le serpent lui-même. Genèse 3, 14. Le serpent, qui était auparavant une créature noble, sera maintenant transformé en forme et en apparence. Puisque le serpent s'est exalté lui-même, il sera dorénavant obligé de ramper sur le ventre et de manger la poussière de la terre. Donc, le premier jugement, c'est lui qui l'a emmené, le péché. Dieu juge d'abord le serpent. Ensuite, il juge Satan comme de raison. Genèse 3, 15 doit se comprendre comme s'adressant non pas au serpent, mais à Satan. Il existera dorénavant une inimitié entre la postérité de Satan, les incroyants et probablement aussi les démons, et la postérité de la femme, donc les croyants, et Christ spécifiquement. Quand ça dit « celle-ci t'écrasera la tête », indique que Christ portera un coup mortel à Satan à la croix. Christ remportera une victoire majeure. Ça dit « tu lui blesseras le talon », suggère que Satan ne remportera qu'une victoire mineure relative à la mort de Christ. Néanmoins, cette même mort deviendra pour Satan sa propre défaite. Troisième jugement, conséquence de l'entrée du péché dans le monde humain, le jugement contre la femme. Genèse 3, 16, ça dit « la femme connaîtra la douleur d'un enfantement ». Le mot « douleur », en hébreu « yizabon », dans le contexte de l'enfantement, est également employé dans le contexte du pénible labeur que connaîtra Adam. Tous deux connaîtront la souffrance dans leur rôle respectif. Quand ça dit « tes désirs se porteront vers ton mari », le sens de cette expression est difficile à saisir. Elle peut vouloir dire soit le désir sexuel, soit le désir de sécurité sous l'autorité de son mari, ou soit le désir de la femme de prendre l'autorité sur son mari, Genèse 4, 7. Moi, je pense que c'est plutôt prendre l'autorité sur son mari. Elle va vouloir dominer, mais la Bible dit que ce sera toujours l'homme qui va dominer sur la femme. Alors, un aspect final du jugement contre la femme sera que son mari dominera sur elle. Quatrième jugement, le jugement contre l'homme lui-même. Genèse 3, versets 17 à 19. Le premier jugement sera contre le sol. Il ne sera plus capable de produire spontanément du fruit, sinon à travers le dur labeur de l'homme. Le second jugement contre l'homme sera la mort. Adam a été créé à partir des éléments du sol. Le processus de la mort retournera l'homme à la poussière de laquelle il a été tiré. Donc, si on laisse un homme pourrir après sa mort, qu'est-ce qui arrive? Il se décompose, puis il retourne en poussière. Il est venu au monde de la poussière, il va retourner dans la poussière. Cinquième, le jugement contre la race humaine. Et ça, c'est peut-être le passage le plus difficile à comprendre dans toute la Bible, Romains 5, 12. Beaucoup d'encre ont coulé pour expliquer ça. Alors, les conséquences du péché d'Adam se transmettent à travers toute la race humaine. L'humanité tout entière sera désormais sujette à la mort physique, spirituelle et éternelle. Romains 5, 12, la difficulté, c'est que ça dit qu'on était en Adam. Alors, la difficulté, ça dit que l'humanité, il y a deux façons de comprendre, on va voir ça dans les leçons suivantes. Ou bien non, comment on peut expliquer que nous étions en Adam et que nous avions péché en même temps que lui péchait, nous péchions nous aussi? Alors, il y a différentes explications théologiques. On va voir les différentes explications théologiques et quelle position les réformés ont pris au cours de l'histoire. On va voir ça. Alors, Romains 5, 12, c'est un passage important. Quand les Écritures nous disent que nous, on a péché en Adam, la question, mais comment? Je n'étais pas là, moi. Moi, je n'étais pas en Adam. Là. Moi, je peux dire, mais ça se fait que je suis puni pour une faute qu'un autre a commise. Alors, il faut répondre. Les Écritures nous donnent des indications, mais il faut trouver des explications qui sont scripturaires et non pas partir en peur dans toutes sortes de directions. Et le dernier jugement, le jugement contre la création elle-même. Genèse 3, 17 et 18. Alors, on peut se demander comment ça se fait que les animaux, comment ça se fait que la nature elle-même subit les conséquences du péché d'Adam. Dieu a permis cela. Alors, toute la flore et la faune seront affectées par le péché d'Adam. La vie animale et la nature résisteront désormais à l'homme. Ça implique qu'elle ne résistait pas avant, mais qu'après la chute, elle va résister. Les animaux deviendront sauvages et féroces. La flore produira des mauvaises herbes qui entraveront la productivité de la terre. Toute la création soupirera en raison des effets de la chute et attendra impatiemment le jour de la restauration. Si vous allez dans Romains 8, versets 19 à 21, ça dit que la création entière soupire après sa libération. Donc, le péché d'Adam a emmené beaucoup de conséquences. On en a vu les principales. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de la brève étude aujourd'hui de l'origine du péché? Néhémie 2, il y a sans doute qu'il pourrait en avoir plus que ça. La première, rappelons-nous que Satan est l'ennemi de Dieu et le nôtre également. Nous sommes en guerre et dans toute guerre, pour vaincre, il nous faut bien connaître notre ennemi. C'est donc notre devoir d'étudier la personne de Satan et ses tactiques pour nous éloigner du Seigneur. Alors, il va tout faire pour nous éloigner, pour nous refroidir et même pour nous paralyser, ce qu'il réussit parfois. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, ça nous parle que Satan a des tactiques envers nous. Et autre chose qu'il ne faut pas oublier quand on le considère, il est beaucoup plus brillant que nous. Il est plus intelligent que nous. Et il y a beaucoup de connaissances sur qui on est, c'est quoi nos misères, c'est quoi nos faiblesses, et il sait très bien choisir son moment pour attaquer, comme un serpent. Alors, 2 Corinthiens 2,11 dit, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. » Si on ne fait pas attention, Satan peut prendre l'avantage sur nous et nous dominer jusqu'à un certain point. Car il dit, « Car nous n'ignorons pas ses desseins. » Quels seraient ses desseins? Nous empêcher de croire dans la grâce, nous empêcher de nous sanctifier, nous empêcher de nous purifier, etc. Deuxième application, implorons le Seigneur de nous donner une conception plus haute de la gravité du péché. Moi, je pense personnellement, avec l'expérience de la vie chrétienne que j'ai, je peux vous dire que les chrétiens en général, moi y compris, je m'exclus pas, on n'a pas une idée assez haute de la gravité du péché. On commet un péché, puis on ne se rend pas compte que de la gravité extrême de cela. Le plus petit des péchés nous aurait valu d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Le plus petit! Et on en commet, et on ne fait pas assez attention, on ne le mortifie pas assez. On ne se rend pas compte jusqu'à quel point Dieu peut haïr le péché. Donc, implorons le Seigneur de nous donner une conception plus haute de la gravité du péché, de nous donner aussi de le haïr authentiquement. Parce qu'on l'haït, mais des fois on flirte avec un petit peu. Et de le combattre avec une plus grande vigueur tous les jours de notre vie pour la plus grande gloire de Dieu. Que l'Éternel soit loué pour sa miséricorde et sa grâce merveilleuse. Amen. Amen.